This is the BBC Home Service.
Site aventure, Elisabeth de Mouret, tout est prêt.
Operation London Bridge.
Opération London Bridge.
Secret Buckingham Palace plan for Queen's death revealed.
Le plan secret de Buckingham Palace pour la mort d'Elisabeth est révélé.
London Bridge is down.
London Bridge est baissé. Voilà le bref message codé qui alertera un jour le monde du décès de la reine et déclenchera une série d'événements qui ont été secrètement répétés pendant des décennies.
Cela fait donc précisément ce jour 70 ans que la reine est mariée au duc d'Édimbourg, 65 ans qu'elle règne. Le prince Philippe, devenu, selon sa blague usée et désabusée, le champion du monde de l'inauguration des plaques de rue, s'est mis en retrait à 96 ans. La reine en accuse 91. Enfin, accuse n'est pas le mot. Affiche serait plus convenable. Après tout, selon les calculs statistiques, une femme de 91 ans en Grande-Bretagne a encore une espérance de vie de 4 ans et quelques mois. Cependant, si d'aventure, la souveraine venait à disparaître, elle n'a pas voulu être prise en défaut. Un protocole très précis a été mis au point. Tout est prévu jusqu'à la place de ses chiens dans le cortège des funérailles. Des exercices de simulation ont été faits, comme pour les obsèques de la reine-mère il y a 15 ans. On a dit de celle-ci qu'elle aurait voulu voir se dérouler parfaitement son cortège funèbre devant sa télévision, un verre de gin à la main. Le professionnalisme des Windsor doit aller jusqu'au bout. Le mariage d'Elisabeth et de Philippe, le 20 novembre 1947, avait aimanté 1 milliard d'auditeurs. Combien de milliards de téléspectateurs pour son enterrement? C'est une affaire de première importance, avec donc son nom de code, London Bridge, et son mot de passe, London Bridge is down. Le pont de Londres s'est abaissé. Enfin, on pourrait presque dire, le pont de Londres s'est effondré, et ce ne serait pas si mal choisi, parce que, si on veut faire simple, pendant le règne de Victoria, l'Empire allait de mieux en mieux. Durant celui d'Elisabeth, il s'est évaporé. Mais il arrive que l'audience dans les médias gagne en proportion de la perte d'influence. Et on y soit qui mal y pense.
Jour J.
Il n'est pas prévu, le jour J, que Buckingham tweet. Un valet de pied affichera un avis bordé de noir sur la porte du palais. Le 10 Downing Street sera prévenu, et aussi la BBC qui interrompra ses programmes. Comme ce fut le cas en 2002, lorsqu'après avoir appelé au téléphone ses meilleurs amis et distribué, c'est important, ses chiens, Queen Mum finit par s'éteindre. Le feuilleton comique qui se déroulait alors sur l'écran fut aussitôt interrompu.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Every time there's a knock on the door, you say, "Who's that?" That's a very annoying habit you've got. I mean, how do I don't know what it is? I mean, I've got x-ray eyes. I shall go to the door. I shall open it. If it's got anything remotely to do with you, I shall tell you who it is.
Well, you don't open it, nobody'll know, will they?
This is BBC Two. We're interrupting this programme to join BBC One for an important announcement.
This is BBC Television News. Buckingham Palace has just announced the death of the Queen Mother. In a statement, the palace said, "The Queen Mother has died. BBC Television is broadcasting this special program reporting the Queen Mother's death."
Et dans les studios des médias privés, il est prévu des lumières bleues destinées à lancer l'alerte en cas d'événement grave. Elles s'allumeront et quand commenceront à être diffusés des disques un peu mélancoliques, voire inoffensifs, il faudra s'attendre au pire.
«
La tâche du ministère des Affaires étrangères sera d'alerter par priorité les pays du Commonwealth qui restent placés librement sous l'allégeance de la couronne ou gardent un lien avec elle. Si c'est encore Boris Johnson qui tient le Foreign Office, espérons qu'il ne fera pas de gaffe, ni avec Trinité et Tobago, ni avec les Seychelles, ni avec l'Inde, ni avec le Pakistan. Elisabeth et Philippe ont visité avec tant d'application tous ces pays dès l'année du couronnement en 1953.
Après 17 jours et 13 000 kilomètres parcourus depuis Panama, le Gothique, à bord duquel se trouvent la reine Elisabeth et le duc d'Édimbourg, arrive en rade de Suva, capitale des îles Fidji. La souveraine est accueillie à sa descente du navire par une enfant noire qui lui offre le traditionnel bouquet de bienvenue à la manière papou. Les danses typiques du folklore se déroulent ensuite tout le jour durant en l'honneur des visiteurs royaux. Après les représentants de toutes les tribus de l'archipel, les jeunes filles des écoles dansent à leur tour. Une étape s'achève.
C'est en Australie qu'il faudra guetter de plus près la réaction au message d'annonce de la mort de la reine. Le Premier ministre et le leader de l'opposition, là-bas, comme une bonne partie de l'opinion, sont maintenant convertis au républicanisme. Au moment de la mort du père d'Elisabeth, George VI, 1952, le climat était autre. Nostalgie. Les matchs de rugby et de hockey s'étaient interrompus d'eux-mêmes et seul avait continué le foot, mais avec force, hymne respectueux.
The king is dead.
Jusqu'ici, nous avons envisagé une hypothèse qu'on pourrait dire, mais nous craignons le mauvais goût, favorable. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous trouvent de mauvais goût, mais nous ne faisons que reproduire ce qui a été dit et redit dans les médias britanniques. Donc l'hypothèse favorable. La reine meurt à Londres et on va transférer son corps vers la salle du trône de Buckingham afin de l'exposer devant ses sujets et ses visiteurs. C'est finalement assez facile. Elle peut aussi mourir à l'étranger, encore qu'elle ne se déplace plus guère trop loin. Un avion, l'avion de la reine, suffira à transporter le cercueil. Mais l'hypothèse la plus épineuse, c'est la mort en son château de Balmoral, en Écosse. Il faudrait alors se soumettre au rituel écossais interminable, prévoir sans doute un transport en train, avec arrêt à on ne sait combien de stations, enfin, un vrai casse-tête à vous dégoûter de prendre encore des vacances à Balmoral.
Les Highlands, en Écosse. Le château de Balmoral, résidence d'été de la reine d'Angleterre, se situe dans ce massif du nord de la Grande-Bretagne. Une des grandes attractions de la région est la finale des Jeux écossais qui se dispute à Bremer. Le village de Ballater. Les hôtes royaux y font leurs emplettes chez le boucher, le boulanger et au magasin de chasse. Chaque année, le village organise aussi des jeux.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'est aujourd'hui, 20 novembre, l'anniversaire d'heureuse mémoire du mariage d'Elisabeth II avec Philippe. Mais la mémoire n'est pas que célébration, elle est projection dans l'avenir. Nous posons donc aujourd'hui, tranquillement, la même question que s'est posée la Cour et depuis longtemps. Comment fera-t-on si, d'aventure, haute et puissante Elisabeth venait à passer ? Vous aurez remarqué que nous avons passé sous silence, comme d'habitude, le malheureux prince Charles, 69 ans en 2017, soit 9 de plus qu'Édouard VII, lorsque celui-ci succéda enfin à Victoria en 1901. Mais déjà, quand Lady Di vivait encore, Charles datait un peu à côté d'elle. Aujourd'hui, son couple avec Camilla est un exemple de la supériorité des bonnes manières sur la mauvaise éducation. Le prince Charles pourrait donc être heureux. Mais à ses vieux chagrins s'en est ajouté un nouveau. 59% de ses futurs sujets souhaiteraient qu'il passe de suite le sceptre à la génération suivante, au prince William. Il n'y a que 22% des Britanniques à le vouloir comme roi. C'est pourtant, jusqu'à plus ample informé, ce qui sera.
J+1.
At dawn.
À l'aube, la fenêtre centrale qui surplombe Friarycourt sur la façade est du palais aura été retirée et le toit couvert de feutre rouge. Une fois que Charles aura parlé, les trompettes des lifeguards s'avanceront, sonneront trois fois et Thomas Woodcock, roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, lancera les proclamations rituelles du roi Charles III. Je serai le premier à les annoncer, confie Woodcock. Une mission rémunérée 49 livres et 7 cents depuis les années 1830. En 1952, le moment avait été filmé par 4 caméras d'actualité. L'orchestre des Coldstream Guards jouera l'hymne national sur des tambours drapés de noir.
Faudra s'y faire, dorénavant, ce sera de nouveau God Save the King. Ici, c'est une version qui date de George V, le père d'Édouard VIII, et de George VI, le grand-père d'Élisabeth. Va s'ouvrir, après le décès, pour plus d'une semaine, une longue séquence très particulière. Un morceau de temps fervent va être introduit dans le temps ordinaire, accéléré. Et c'est toujours le modèle le mieux référencé qui peut servir. Voici ce qui s'est passé après la disparition de Queen Mum, la femme de George VI, la veuve de George VI, en 2002.
This is BBC Television News. Buckingham Palace has just announced the death of the Queen Mother. In a statement, the palace said the Queen Mother has died peacefully in her sleep. BBC Television is broadcasting this special program reporting the Queen Mother's death. The Queen Mother's life spanned the last century. And her life saw many phases. Born a commoner, she would become.
Pour la reine disparue, comme pour la reine mère en 2002, va défiler en boucle pendant des jours la rétrospective obligée des grands moments de sa vie, à commencer par celui de la Seconde Guerre. C'est 1940 qui a fait entrer la petite princesse, 14 ans à peine, dans l'immortalité.
This is the BBC Home Service. Aujourd'hui,
la princesse Elisabeth, en personne, participe à notre émission « L'heure des enfants » et s'adresse à tout l'Empire, ici et au-delà des mers.
Her Royal Highness, Princess Elizabeth.
In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour. Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be away from those we love most of all.
En vous souhaitant le bonsoir, je sens que je parle à des amis et des compagnons qui ont partagé avec ma sœur et moi de beaux moments à l'écoute de Children Hour. Des milliers d'entre vous, dans ce pays, ont dû quitter leur maison et être séparés de leur père et mère. Ma sœur Margaret Rose et moi éprouvons beaucoup d'empathie pour vous, car nous savons par expérience ce que cela représente que d'être éloignés de ceux que nous aimons le plus.
Passera aussi en boucle l'autre message impérissable de 1947, celui prononcé pour le 21e anniversaire d'Elisabeth. Il est radiodiffusé et filmé. Quand la caméra change d'axe, Elisabeth dissimule mal un imperceptible mouvement d'agacement aristocratique. Mais ça ne s'entend pas. Elle parle du Cap, en Afrique du Sud, où elle a accompagné ses parents. L'Empire est encore une réalité ces années d'après-guerre.
À l'occasion de mon 21e anniversaire, je suis heureuse de pouvoir parler à tous les habitants du Commonwealth. Où qu'ils vivent, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur langue. Permettez-moi de commencer par remercier les milliers d'aimables personnes qui m'ont envoyé des messages de bienveillance. C'est un jour heureux pour moi, mais il est aussi porteur de pensées graves sur l'avenir. Ses défis et ses opportunités. En cette période, il est précieux de se savoir soutenu par autant d'amis dans le monde entier et de savoir qu'ils pensent à moi et me souhaitent le meilleur. J'en suis reconnaissante et profondément touchée. Du Cap, d'où je vous parle aujourd'hui, je suis à 10 000 km du pays où je suis née, mais je ne suis certainement pas à 10 000 km de chez moi. Je souhaite faire acte solennel de dévouement à tout l'Empire. Je voudrais le faire maintenant et simplement. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Mais je n'aurai pas la force de tenir cette résolution sans votre soutien. Soutien que je vous demande aujourd'hui. Je sais qu'il sera infaillible. Que Dieu m'aide à réaliser mon vœu et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes prêts à le partager avec moi.
1947, toujours, c'est une année très importante pour la mémoire collective, parce que c'est bien de la mémoire collective des Britanniques qu'il est question ici. Le quotidien, alors, est très noir. Anthracite, couleur du charbon qui manque, comme manque tout. Mais, le 20 novembre, le mariage avec Philippe va raviver les couleurs du pays.
Et bien maintenant, le grand événement dont nous allons reparler un petit peu, c'est le mariage de la princesse Élisabeth d'Angleterre avec Philippe, duc d'Édimbourg. Ce reportage a déjà été diffusé, je crois, sur toutes les antennes du monde entier et dans toutes les langues, entre midi et 2h heure française et 11h et 13h heure anglaise, jeudi 20 novembre. Les reportages ont été diffusés en direct, en anglais, sur tout le réseau de la BBC et sur l'ensemble des postes du Commonwealth. En italien sur l'Italie et la Suisse, en français sur la chaîne de la radiodiffusion française, Radio Monte-Carlo, la radiodiffusion suisse, la radiodiffusion belge et Radio-Canada. En plus de ça, une émission en norvégien et en danois a été diffusée également en direct et 43 montages ont été faits dans la journée en 43 langues différentes. Je crois que c'est l'événement qui a eu le plus d'audience. On peut dire qu'il y a eu peut-être 1 milliard d'auditeurs à l'écoute entre midi et 2h ce jour-là.
Cette nuit, devant le palais de Buckingham, des milliers de Londoniens ont bravé le froid et l'ennui des heures vides pour être le jour venu au premier rang. Et quand Big Ben a sonné l'heure que l'Angleterre attendait, ils étaient plus 1 million, pressés pour voir passer dans le carrosse de verre et d'or l'héritière du vieil empire en voile blanc, aux côtés de son père, le roi. Aujourd'hui, en effet, sous le ciel de brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Élisabeth, dont chaque Anglais connaît tout, depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse le lieutenant de la Royal Navy, Philip Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créée depuis hier, duc d'Édimbourg. Maintenant, Londres tout entier laisse déborder sa joie. En tête du cortège, le carrosse de verre et d'or emporte maintenant le jeune couple dont le roman a ému depuis un an tous les peuples de l'Empire. Le peuple britannique, meurtri par les restrictions d'une crise inconnue, même en pleine guerre, semble trouver dans ce mariage doré une sorte de consolation et comme une revanche aux misères qu'il supporte. Il a fait aux jeunes mariés des cadeaux pris sur ses rations diminuées. Certains ont même donné pour le trousseau de la princesse leur coin textile. Cette famille royale qui l'acclame, c'est un peu sa famille.
J plus 9.
Nous essayons toujours de vous expliquer en exclusivité ce qui se passera si d'aventure la reine d'Angleterre meurt. La cérémonie funèbre, J plus 9, s'annonce aussi grandiose que les noces. On aura laissé le temps suffisant pour envoyer les cartons d'invitation, préparer le logement de chacun et recouvrir de feutre Big Ben afin d'assourdir son timbre. Si du moins la réfection de la tour de Big Ben est achevée à temps. Le cortège sera réglé d'un pas lent. Parti de Hyde Park, il devra rejoindre la chapelle de Windsor. On imagine peut-être que les souverains sont toujours inhumés à Westminster. Ce n'est plus le cas depuis le XVIIIe siècle et George III. Ils ont maintenant leur dernière demeure dans une résidence royale, certes, mais privée. Westminster est réservé aux héros. On croit aussi que le cortège de jour est une tradition immémoriale. C'est Victoria, pour ses obsèques qui ont eu lieu en 1901, qui a décidé de le faire la journée. D'à peu près tout, elle a décidé d'ailleurs. Mais il se glisse toujours du nouveau dans l'immémorial fabriqué et toujours refabriqué. Ainsi, guettait le pas des marins qu'en 1901, on n'entendait pas aussi nettement.
Immédiatement derrière le cercueil, immédiatement derrière, voici le premier carrosse dans lequel a pris place la reine Élisabeth, sa mère, la reine mère, la princesse Margaret et la princesse royale Mary, la sœur du roi.
Nous allons entendre sous peu le martèlement des pas des marins qui tirent environ une centaine en avant et environ une quarantaine à l'arrière, qui eux retiennent. Cet affût de canon historique a déjà porté, on vous l'a dit, la reine Victoria, Édouard VII, George V, et aujourd'hui George VI. C'est un affût de canon conservé à l'école de canonnage de Portsmouth. Quant au fait qu'il soit tiré par ses marins, c'est une tradition qui remonte aux funérailles de la reine Victoria en 1901. On dit que sous l'impulsion violente des chevaux, sans doute irrités par le froid, les traits se cassèrent, mais aussitôt 100 marins se précipitèrent. Et quelques instants plus tard, les chevaux furent remplacés par les cols bleus qui ont conservé le privilège de conduire à Windsor pour leur dernier voyage les souverains britanniques.
Et ainsi, sous les yeux d'une foule immense et recueillie, le cortège va gagner Paddington. Et quelques heures plus tard, ce sera l'ultime cérémonie dans la chapelle historique de Windsor.
Le corps d'Elisabeth sera descendu dans sa tombe, une tombe alignée sur les autres de sa famille, une tombe modeste, on est en milieu réformé. À Charles III, ensuite, de trouver sa nouvelle place, ce qui ne sera pas facile. Les pays du Commonwealth lui feront-ils la même allégeance qu'à sa mère ? L'Australie ne donnera-t-elle pas le branle de la dissémination en se transformant en république ? Et le Royaume-Uni, lui-même, déchiré par le Brexit, ne va-t-il pas devenir un royaume désuni ? Enfin, santé et bonheur à Charles III, haut et puissant souverain d'un empire qui n'en est plus un. Simulacre d'empire. Là, c'était un simulacre de cérémonie. Chacun aura compris que nous n'avons procédé ici qu'à une simulation. Santé et bonheur à Elisabeth.
Thank you.
L'émission a été préparée par Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Gilles Gaillard. Je parlais de mémoire collective, Mathieu Bidard, les émotions. On a imaginé celles qui s'empareront des Anglais à la mort d'Elisabeth, sont à l'origine de...
Eh bien, du travail d'Antonio Damasio, qui est notre invité dans un instant pour nous présenter son nouvel ouvrage, L'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments et la culture.
Les émotions à l'origine de la société et de la culture dans un instant.